Mercedes Zema avance. Ya nene na goma avance. Bamba na balilinga pe avance. Bamba na nana trop d'avance. Avant l'heure de valeur. Bamba na balilinga pe avance.
Nous sommes le mercredi 2 août 2023. Tout de suite, les faits majeurs. Henri Conan Bédier, l'ex-chef de l'État ivoirien et président du PDCI-RDA, décédé hier à l'âge de 89 ans. Son parti salue la mémoire d'un grand homme d'État et de paix pour la Côte d'Ivoire. Dans quelques instants, Jean-Claude Comé reviendra sur son parcours professionnel et politique. Élection locale du 2 septembre prochain, la CEI, l'institution chargée d'organiser ces scrutins, a publié hier la liste des candidats, 93 dossiers retenus et un rejeté pour les régionales et 758 dossiers retenus et 8 dossiers rejetés en ce qui concerne les municipales. Coup d'État au Niger, ouverture aujourd'hui à Abuja de la réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO sur la situation politique dans le pays. Et la crise au Niger, notamment les sanctions commerciales et financières prises par les dirigeants de la CEDEAO, seront évoquées par un expert des questions militaires, le professeur Arthur Banga, est l'invité de la rédaction. Mais avant, Ghislain Koulibaly vous proposera son dossier d'actualité sur le festival Elé d'Adiaké. Voilà pour l'ossature. Bonjour à tous. L'ancien chef de l'État ivoirien et président du PDCI-RDA est décédé hier à Abidjan. À l'âge de 89 ans, il fut président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à décembre 1999 et un acteur majeur de la vie de son pays. Retour sur le parcours professionnel et politique de ce monument de la scène politique ivoirienne avec vous, Jean-Claude Comé.
J'ai aussi une pensée pour mon pays, la Côte d'Ivoire, qui peine encore à engager un dialogue franc et sincère entre tous ses fils et filles pour construire une paix durable au service du bonheur de ses populations.
Cette voix d'Henri Conan Bédier que vous entendez, c'était un hier, mardi 1er août 2023 à Abidjan, victime d'un malaise dans son fief de Daokro. Le chef d'État ivoirien avait été transféré en urgence à Abidjan où il est décédé dans la soirée. Avec cette mort, c'est un monument de la scène politique ivoirienne qui disparaît à 89 ans, avec un parcours professionnel et politique riche et dense. En effet, ambassadeur aux États-Unis dans les années 1960, il a été aussi pendant longtemps ministre de l'économie et des finances de feu Félix Houphouët-Boigny, avant de devenir président de l'Assemblée nationale, puis chef de l'État en 1993 à la mort du premier président ivoirien. Mais la présidence de 1993 à 1999 de celui que ses proches appelaient affectueusement le sphinx de Daokro a été perturbée par plusieurs controverses politiques, notamment le concept de l'ivoirité, qui selon des observateurs a contribué à la fracture sociale, ce qui a eu pour conséquence un coup d'État contre son régime en 1999. Depuis lors, l'ancien chef d'État qui présidait au destiné du PDCI-RDA a dans sa stratégie politique pour revenir au pouvoir tisser des alliances d'abord avec des partis dites oufotistes, dans le cas du RHDP, avant de prendre ses distances après l'appel de Daokro lancé en faveur d'Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien avec qui il sera en opposition farouche en 2020 avec la création du CNT, le Conseil national de transition, après la présidentielle. Sa dernière grande manœuvre remonte à mai 2023 lorsque son parti, le PDC-IRDA, a conclu un accord avec le PPACI de l'ex-président Laurent Gbagbo dans le cadre des élections municipales et régionales de septembre 2023. Et c'est donc en attente de ces joutes électorales du mois prochain que Nzueba, en français la fine pluie, comme on le surnommait, tisse sa révérence, et cela en pleine saison pluvieuse.
Vous l'avez dit, Jean-Claude Comé, Henri Conan Bédié est un monument de la scène politique ivoirienne et il disparaît un mois des élections locales dans son pays. Hier, la CEI, l'institution chargée d'organiser les scrutins, a publié la liste des candidats, 93 dossiers retenus et un rejeté pour les régionales et 758 dossiers retenus et 8 rejetés en ce qui concerne les municipales. L'information a été donnée par le porte-parole de la commission électorale indépendante lors d'un point de presse. Pour le cas des communes, écoutez quelques précisions d'Émile Broutier.
La commission électorale indépendante, après en avoir délibéré, décide, article 1, sont rejetés pour composition non conforme à la loi. Les dossiers des listes de candidatures conduites par M. Seydou Ouattara, candidat sans étiquette politique dans la commune de Yamoussoukro, Meïté Amadou du PDCI RDA dans la commune de Séfié, Fofana Lassina, dit Dosso du PDCI RDA dans la commune de Djibrosso, Dambélé Boué Junior, candidat sans étiquette politique dans la commune de Kokodi, Diazé Gogo Otomna, candidat sans étiquette politique dans la commune de Lakota, Bazaré Nebi Raymond, candidat sans étiquette politique dans la commune de Divo, Mompo Seydou, candidat sans étiquette politique dans la commune de Kwibli. Article 2. Est inéligible la liste conduite par M. Bilali Diara, candidat sans étiquette politique dans la commune de Gagnoua. Article 3. Sont éligibles les candidats inscrits sur la liste annexée à la présente décision. Article 4. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés et le parti ou le groupement politique qui les ont investis peuvent saisir le Conseil d'État dans un délai de 3 jours à compter de la date de publication de la présente décision.
À l'instant, Émile Ebrotier, porte-parole de la CEI, il était au micro de Junior Cardin, a noté que pour les régionales, la liste conduite par Bakayoko Mariam, candidate sans étiquette politique dans la région du Ouro-Dougou, a été rejetée pour dossier incomplet, donc non conforme avec ceux de ses colistiers. Depuis hier mardi, 18 délégations de la commission électorale indépendante sillonnent tout le territoire national pour le renouvellement des bureaux des commissions locales de l'institution dans la région de Gbeke. L'opération qui concerne 28 commissions locales de la CEI a démarré avec le renouvellement des bureaux du département de Boaké, d'où nous appelle Joseph Assalé, notre correspondant régional.
Le superviseur de la commission électorale indépendante pour la région de Gbeke justifie le renouvellement des bureaux locaux de l'institution, professeur Yapo Yapi.
Pour la CEI, lorsque une nouvelle activité commence, on renouvelle les commissions locales. Ça fait partie de notre processus de transparence. En plus, il y a des nouvelles entités qui venaient d'entrer à la commission. Donc, on refait les bureaux pour que ces entités-là compétissent, pour que la CEI puisse avoir une commission qui soit une commission consensuelle.
Puis il invite les conseillers des commissions électorales locales à plus d'impartialité et de neutralité.
Il faut que la CEI rassure. Il ne faut pas que les partis pensent que parce qu'ils ont des représentants de la CEI, ces représentants vont travailler pour eux. Si nous apprenons qu'un membre de la CEI travaille pour son parti politique, nous demandons immédiatement qu'il soit passé par un autre qui peut être plus loyal à la CEI. Les membres de la CEI là, doivent garantir l'impartialité de la CEI. Mais une fois que tu es entré dans la CEI, tu fais un trait sur ton parti politique.
Message bien perçu.
Kofi Rebecca, vice-présidente commission électorale régionale Bé. Nous nous attelons à travailler en toute symbiose, dans l'harmonie, laisser notre manteau de parti politique. Nous sommes là pour l'intérêt général.
À noter que tous les bureaux sortants des commissions électorales locales de Boaké ont été reconduits par consensus. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
paisible cérémonie de baptême, de promotion et de remise d'épaulettes aux élèves commissaires et officiers de police des promotions 2021-2023 des écoles de police d'Abidjan et de Korogo a eu lieu hier à l'école de police d'Abidjan sous la présidence du vice-président ivoirien Thiemoko Mélié Koné. Compte rendu, Matatouré.
Attention, chalou, sol.
Ce sont au total 467 élèves, commissaires et élèves officiers de police sortant de la 45e promotion de l'école de police d'Abidjan et de la seconde promotion de l'école de police de Korogo qui, après deux années de formation, ont reçu un nom de baptême et leurs épaulettes des mains du vice-président de la République avec une présence toute particulière du Congo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a appelé la police nationale dans son ensemble à se préparer à la sécurisation de deux prochains grands événements en Côte d'Ivoire.
À savoir les élections locales et régionales prévues le 2 septembre prochain et la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024 dans cinq grandes villes de notre pays se déroulent dans un climat de paix et surtout de sécurité.
Les élèves, commissaires et officiers police sortants ont choisi de porter le nom de baptême discipline, loyauté et rigueur et d'avoir comme parrain le vice-président Thiemoko Mélié Koné.
À vous, chers fidèles, l'uniforme que vous portez est le symbole de l'autorité de l'État. Il vous engage par conséquent au strict respect de ses institutions tout en demeurant au service de nos populations.
Notons que le ministre de la Défense, Séné Birahima Ouattara, ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement, ainsi que des représentants de l'ambassade de la République du Congo en Côte d'Ivoire, ont également assisté à cette cérémonie.
À présent, parlons des crises dans les chefferies en Côte d'Ivoire. D'un côté, il y a un problème de succession qui prévaut actuellement dans le royaume Baoulé à Sakassou et de l'autre, il y a la crise survenue dans le royaume de Mossou où il y a eu des velléités de destitution du roi Nana Assoumou Kanga par des jeunes opposés à sa gestion des affaires. Interrogé sur la question, un professeur titulaire d'histoire et spécialiste des peuples de civilisation à Caen rappelle que ces populations ont une procédure unique de destitution des rois, dont l'épilogue est le jurement qui confirme la destitution d'un roi chez le peuple akan. Là-dessus, écoutez les précisions du professeur Alou Kwame René.
Tout le monde connaît les akans en Côte d'Ivoire, les Baoulé, les Bronze, les Agni, ce sont des peuples akans. Chez ces peuples-là, quand on veut destituer un roi, il y a une procédure. C'est des peuples qui sont procéduriers. Quand le roi fait des choses qui ne plaisent pas, les notables, ce sont ceux-là qui approchent le chef de la famille, même royale. Parce que le roi, il appartient à une famille. Et puis on lui dit, voilà ce que notre roi fait. Donc, s'il te plaît, il faut lui parler pour qu'il revienne sur ce comportement que nous n'approuvons pas, sur les décisions qu'il prend que nous n'approuvons pas. Après cela, si le roi n'a pas écouté, qu'il continue sur la même lancée, on approche maintenant la reine mère. Donc on approche celle-là parce que c'est celle-là en fait qui est la première conseillère du roi. Moi aussi à mon tour, je te parle. Voilà ce qu'est la notabilité et le proche. Il faut revenir sur ton comportement. S'il n'a pas écouté, maintenant la notabilité même l'appelle pour l'entendre. Maintenant, si lui, il s'explique qu'il n'est pas convaincant, c'est en ce moment-là que la destitution intervient. D'abord, on enlève son pagne parce que ça ne dit pas n'importe comment. Ils ont des pagnes d'apparat. Des pagnes qui sont importantes, qui sont des pagnes de valeur. Et puis, on lui retire ses sandales. Donc, on prononce le jurement. Vous ne prononcez pas le jurement et puis vous partez déposer des rois. C'est maintenant, quand ils ont prononcé le jurement, maintenant, ils ajoutent, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus notre roi et puis tu baillis. C'est-à-dire que c'est consommé.
Qui prononce le jurement?
Ce sont les notables qui prononcent le jurement.
C'était le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire et spécialiste des peuples de civilisation à Caen. Il a été joint par Constant Maïli. Pêche artisanale, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemoko Touré, a procédé hier à l'ouverture officielle de la pêche artisanale qui a été fermée après un mois de repos biologique. C'est la toute première fois que le repos biologique est appliqué en Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est tenue au point de débarquement du débarcadère de Lokodjro dans la commune d'Atekoubé en présence de tous les acteurs et actrices de la pêche artisanale. Les détails dans ce reportage de Jean-Claude Mabia.
Le ministre est revenu sur les raisons de l'application du repos biologique. Sidi Thiemoko Touré.
Le repos biologique vise les objectifs suivants. 1. La réduction de l'effort de pêche. 2. La restauration des stocks de poissons à un niveau biologiquement viable. 3. L'amélioration et la garantie de la durabilité des revenus des pêcheurs et des acteurs de la chaîne de valeur. Je formule un vœu de plein succès à l'endroit de tous les acteurs de la filière pêche et souhaite à tous les pêcheurs un excellent début de saison.
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en a profité pour faire un don de matériel aux acteurs et actrices de la pêche artisanale du débarcadère de Lokodro dans la commune d'Adekoubé. Ataé Maïga, son représentant résident.
Nous saluons cette mesure du gouvernement visant à préserver la ressource qui est très importante en Côte d'Ivoire, la ressource halieutique. Il faut que chaque année, on puisse pouvoir observer cette période-là et à la longue, c'est le pays qui en bénéficie parce que la production va augmenter.
Cette reprise a été saluée unanimement par les acteurs de la pêche artisanale.
C'est une première en Côte d'Ivoire de voir qu'ils ont fermé la pêche. Nous sommes heureuses parce que nous savons que maintenant, là, nous allons gagner beaucoup de marchandises.
Je suis contente qu'aujourd'hui, il y a eu l'ouverture de l'eau parce que pendant les un mois, il faut soutenir nos maris, nos enfants. Vraiment, la fermeture était vraiment lourde pour nous.
Ce don de la FAO d'une valeur de 8 millions de francs CFA est composé de gilets de sauvetage, de filets de pêche et de 4 tricycles.
Réseau Niger, le comité des chefs d'état-major de la CDAO tient du 2 au 4 août à Abuja une réunion extraordinaire sur la situation politique dans le pays et cela la suite à la décision des chefs d'état et de gouvernement de l'organisation panafricaine lors de leur session extraordinaire le 30 juillet dans la capitale nigériane. La CDAO a donné un ultimatum de 7 jours aux militaires qui ont renversé le pouvoir, n'excluant pas le recours à la force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Au même moment, les frontières terrestres et aériennes du pays, avec 5 États frontaliers, ont été réouvertes près d'une semaine après leur fermeture lors d'un coup d'État ayant renversé le président élu Mohamed Bazoum. C'est ce qu'a annoncé hier un des putschistes à la télévision nationale. Place maintenant au dossier d'actualité qui porte sur le LF Festival d'Adiaké. Il s'est déroulé du 26 au 29 juillet. Le Grand Est de la Côte d'Ivoire a été la région invitée cette année avec la présence des rois de l'Indénié du Zanzan. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Abik Togo, parraine la cérémonie, s'est félicité d'une telle organisation qui fait la promotion des us et coutumes et le développement économique du Sud Comoué. Les spectateurs et festivaliers ont pris du plaisir à suivre la course de pirogues sur la lagune Abi. Dossier signé Ghislain Koulibaly.
Des centaines de festivaliers, les yeux rivés sur la lagune Abi, des supporters qui encouragent leurs équipes et la victoire remportée par les anges de Kakoukro Lagune de la sous-préfecture d'Assini. Arlette, de l'équipe féminine, nous explique comment elle y est arrivée.
Première année, il n'y avait pas la coupe. Aujourd'hui, on a pris la coupe. C'est l'entraînement. Je maîtrise bien de l'eau. Depuis mes petites, je suis au bord de l'eau. Donc, à chaque moment, on traverse. On essaye d'apprendre un peu.
L'encadreur Adje Adje Paul nous présente ici les différentes disciplines de cette course de pirogue.
La course individuelle homme, la course individuelle femme, une seule femme dans une pirogue. Et le quintuple, 5 hommes dans une pirogue. À ce niveau, les femmes ne participent pas à cette course-là. Après le quintuple, on a le trinôme relais. 3 femmes, 3 garçons dans 2 pirogues différentes. Les femmes s'engagent les premiers. Si elles franchissent la ligne d'arrivée, comme un peu dans le relais ordinaire, les hommes maintenant décolle. Donc voilà un peu les différentes courses qui existent.
Le LS, c'est aussi l'occasion de rendre la lagune Abi propre, comme nous le dit le président du comité d'organisation, Aouzan Kakou.
Il y a les pêcheurs, nouvelle version, qui vont recueillir des branches d'arbres, des troncs d'arbres, venir les déverser dans la lagune pour pouvoir recueillir des poissons. C'est comme si c'était un élevage à ciel ouvert. Mais ça pollue le fond marin, ça pollue la lagune. Et pour la fête, chaque année, nous passons 3 semaines à 4 semaines en train de nettoyer le fond marin. Ça sert énormément à la lagune.
L'aspect économique de ce grand rendez-vous est mis en lumière par l'initiateur Niensie Yakuba, maire de la commune d'Adiaké.
L'engouement des festivaliers, tant pour la semaine des lait que pour la semaine gastronomique, va sûrement être catalyseur pour l'accroissement des investissements dans l'hôtellerie et haute attrait touristique dans la commune.
Le parrain de cette 7e édition, Adama Abik Togo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a saisi l'occasion pour appeler à l'union et à la solidarité entre les fils et filles de la région du Sud Comoué.
Le festival, en plus d'enrichir de façon remarquable le patrimoine culturel ivoirien, doit constituer désormais ce cadre unique de rassemblement de cohésion et de vivre ensemble des différentes couches sociales, religieuses et ethniques vivant ici à Diaké.
Plusieurs valeurs culturelles prônées par ce festival, avec au cœur des festivités, la jeunesse et l'entrepreneuriat.
C'est le moment d'écouter l'invité de la rédaction qui est un expert des questions militaires. Le professeur Arthur Banga va parler de la crise au Niger, notamment des dirigeants de la CEDEAO qui ont pris de nombreuses décisions lors de leur récente réunion survenue à la suite du coup d'État, dont la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre ces États membres et le Niger. La CEDEAO a entre autres fixé un ultimatum d'une semaine aux putschistes au Niger pour restaurer l'ordre constitutionnel, soulignant ne pas exclure un recours à la force. Ces sanctions pourraient-elles faire fléchir la junte militaire actuellement au pouvoir? Élément de réponse dans cet entretien conduit par Gapina Ouattara.
Professeur Arthur Banga, bonjour.
Bonjour.
Au regard de la situation de coup d'État au Niger, en votre qualité d'expert militaire, quel décryptage pouvez-vous faire des décisions du sommet extraordinaire de la CEDEAO?
Déjà, il faut se féliciter de la réaction rapide de la CEDEAO et de la fermeté de ses décisions. La fermeté de ses décisions traduit d'abord l'agacement de la CEDEAO et sa volonté d'en finir avec cette contagion de putsch. Agacement parce que la CEDEAO a essayé d'être, dans les trois premiers cas, Mali, Burkina, Guinée, d'être relativement compréhensible en se disant qu'il ne fallait pas punir les peuples, il fallait accompagner les jeunes à ramener rapidement l'ordre constitutionnel. Mais ça n'a pas dissuadé et donc d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État agressif veut montrer plus de fermeté. Et fermeté parce que le coup d'État au Niger ne s'explique par rien, rien de concret, rien de solide, à part un égoïsme d'un général. Et donc, face à ces questions, la CEDEAO a décidé d'être alerte, ferme. On espère justement qu'elle pourra apporter cette fermeté pendant toute la crise.
Ces mesures de la CEDEAO sont corsées, ce qui laisse penser à un agacement de la dite institution au regard de ce que l'on pourrait qualifier d'échec face à des coups d'État précédents au Mali, au Burkina Faso. Quel commentaire?
Moi, je suis bien d'accord avec vous. Peut-être que le mot échec est fort, mais là, on est sur un vrai tournant. Si la CEDEAO veut que l'idée de coup d'État sorte carrément de son espace, elle doit réussir à ramener, à réinstaller le président Bazoum. Parce que si elle échoue dans cette mission, plus personne n'aura peur de la CEDEAO. Et c'est-à-dire que tous les putschistes, tous ceux qui auront l'envie de faire un coup d'État, la réussite de faire, pourront s'installer sans les graines.
Selon vous, par quelle alchimie la CEDEAO pourra-t-elle parvenir à faire réinstaller le président déchu Bazoum?
Déjà en maintenant ses sanctions, ensuite en préparant l'option militaire dans un délai relativement court pour pouvoir s'imposer au cas où la junte ne comprend plus, n'entend pas, et en demandant à l'Union africaine et à tous les partenaires internationaux de l'Afrique d'adhérer aux sanctions qui seront prises contre le Niger. S'il y a une uniformité des sanctions, ça va passer.
Vous évoquiez une intervention militaire de la CEDEAO au Niger contre les putschistes. Cette option est-elle envisageable au regard de tous les risques et dangers que cela pourrait causer?
C'est une option qui n'est pas souhaitable parce qu'elle a des risques, évidemment. Elle peut avoir des conséquences, mais c'est une option à envisager. Elle n'est pas souhaitable, mais elle est envisageable. Ça va dépendre de ce que la junte va décider. Est-ce qu'elle va comprendre l'importance pour elle de partir, de remettre le président Bazoum au pouvoir? Et donc, c'est une option envisageable qu'il faut envisager de façon très sérieuse au niveau de la CEDEAO.
La fréquence ces dernières années des différents coups d'État en Afrique de l'Ouest, en votre qualité d'expert militaire, vous inspire quoi?
Ça m'inspire déjà de la désolation, parce que c'est un peu une question de stratégie militaire, c'est une question de gouvernance. On se dit aujourd'hui que le coup d'État fait plus partie des méthodes d'accession au pouvoir en Afrique. Et donc c'est déjà cette déception-là des citoyens. Ensuite, on se pose la question sur la formation civique citoyenne de nos militaires. Parce qu'on se pose aussi la question de leur responsabilité, de leur engagement. Et je pense que finalement, on sera obligé d'insister sur ces modules-là dans leur formation. Parce que ça devient désespérant de voir des militaires qui trahissent carrément l'engagement qu'ils ont pris à protéger leur pays.
Si nous devons creuser la question plus loin, est-ce que la conséquence de ces différents coups d'État n'est-elle pas la résultante de la malgouvernance, du manque de démocratie vraie et de la volonté des dirigeants africains à s'éterniser au pouvoir?
Sur les quatre pays qui sont victimes de coups d'État, il n'y en a qu'un seul, la Guinée, sur laquelle on peut évoquer le troisième mandat. Quand on parle de gouvernance, on va parler de problèmes de sécurité au Burkina, des problèmes de sécurité au Mali. Donc, si à chaque chaque fois qu'on est problème de sécurité dans un pays, il va falloir faire un coup d'État. Non, ça ne doit pas expliquer ce qui se passe. C'est pour ça que moi, je parle de prétexte. Il faut déjà être ferme contre les coups d'État. Et quand on va finir la fermeté, évidemment, la gouvernance, il faut qu'on progresse dans notre gouvernance, il faut qu'on progresse dans notre démocratie en Afrique, il faut qu'on fasse progresser nos institutions. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence de tous les jours, mais ce n'est pas le coup d'État qui nous fait comprendre cette évidence-là. C'est la vie citoyenne de tous les jours qui nous fait comprendre cette nécessité. Et on essaie d'y travailler, tous devons y travailler, mais les coups d'État ne doivent pas être les signaux pour nous faire comprendre ça.
À qui profitent donc les coups d'État en Afrique de l'Ouest, M. Arthur Bamba?
Malheureusement, ils ne profitent qu'à la jeunesse qui s'installe. C'est un groupuscule militaire qui prend le pouvoir, qui se partage les ressources du pays. Et parce que regardez les pays dans lesquels, au Mali, ça va faire bientôt 3 ans qu'il y a un coup d'État. Donnez-moi un seul domaine dans lequel le Mali a évolué. Un seul, je ne demande pas deux.
Je n'en connais pas.
Voilà, mais par contre, si vous regardez les vous savez que la poche, la forme et le luxe de la jeune, vous allez comprendre qui sont ceux qui gagnent avec le coup d'État. C'est pas le peuple, en tout cas.
Le peuple ne gagne pas?
Non, il ne gagne rien. Au contraire, les libertés sont bafouées. Les seuls profiteurs, ce sont les putschistes, parce que c'est eux qui s'enrichissent, c'est eux qui rayonnent. Sinon, les peuples ne gagnent rien. Par contre, le luxe des putschistes, oui, ils ne se battent pas pour le peuple, parce que le peuple ne profite en rien de leur régime. Rien, en rien.
Merci à vous, professeur Arthur Bamba.
Au revoir.
L'invité du jour est un expert des questions militaires. Le professeur Arthur Bamba répondait aux questions de Gapina Ouattara. C'est la fin de l'édition de midi. Avant de nous quitter, le rappel de l'essentiel. Henri Konan Bédié, l'ex-chef de l'État ivoirien et président du PDCI-RDA, décédé hier à l'âge de 89 ans. Son parti salue la mémoire d'un grand homme d'État et de paix pour la Côte d'Ivoire, et dont Henri Konan Bédié, dont le parcours professionnel et politique a été résumé en début de journal. Élection locale du 2 septembre prochain, la CEI, l'institution chargée d'organiser ces scrutins, a publié hier la liste des candidats, 93 dossiers retenus et un rejeté pour les régionales, et 758 dossiers retenus et 8 rejetés en ce qui concerne les municipales. Merci de votre attention, je reviens à 15h pour le flash, mais en attendant, voici la revue de presse présentée par Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. L'information est tombée hier dans la soirée.